Bonjour très chers auditeurs, Catherine dans À votre santé. Aujourd'hui au sommaire de notre émission, nous allons parler énergie et géobiologie dans le dossier. Puis Marine nous racontera l'histoire de la Tour du Roi. Nous retrouverons Clément pour une histoire de tourmaline. Puis dans la rubrique trucs et astuces, comment faire face à la perte de cheveux. Mais juste après notre première pause musicale, Margot, notre coach sportif, nous dira comment perdre du poids rapidement et efficacement. À tout de suite après la première pause, Lorena McKennitt de Bonnie Swans. Votre santé, Catherine. Donc nous retrouvons Margot. Bonjour Margot.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous parler d'une clé pour perdre du poids rapidement en faisant du sport. Alors, de quoi s'agit-il? Tout d'abord, je sais qu'il est assez difficile de passer minimum 45 minutes, voire 1 heure sur un tapis de course ou un vélo elliptique. Pour l'avoir fait, franchement, c'est un petit peu ennuyant au bout d'un moment. Et par contre, c'est probablement ce que vous a conseillé le coach de la salle de sport quand vous lui avez confié que vous vouliez perdre du poids. C'est tout à fait normal, c'est une des solutions, ce n'est pas forcément la meilleure. Un moyen plus rapide, plus ludique et plus efficace à terme pour faire fondre les petits kilos en trop, c'est ce qu'on appelle le travail en intermittent à haute intensité, ou HIIT, qu'on entend souvent en anglais pour le terme High Intensity Interval Training. C'est exactement ce que veut dire travail en intermittent à haute intensité. Donc c'est au final la stratégie dite la plus efficace pour perdre du poids sur laquelle s'accordent de nombreux professionnels des métiers de la forme. Il permet tout d'abord de produire en grande quantité les hormones permettant de libérer les graisses pendant l'exercice. Il entraîne par ailleurs la consommation de glucose pendant l'exercice, mais aussi après, par le stress imposé au corps. Et c'est là tout l'avantage du travail en intermittent à haute intensité. Car après un effort intense, on continue de brûler des calories, et cela plusieurs heures après sa séance. Tout ceci sans provoquer de grosses faims, comme on pourrait le ressentir après un travail en continu. C'est ce qu'on disait, donc en passant 1 heure, voire plus, sur son tapis de course, au final, à une intensité, continue. Donc concrètement, comment se déroule une séance d'intermittent? Je vais vous dire tout ça. On peut commencer donc toujours bien sûr par un échauffement, au minimum une dizaine de minutes, pour préparer votre corps à l'effort. Faites monter donc doucement la température de votre corps. Vous devez avoir chaud à la fin, mais sans pour autant être essoufflé au point de ne plus pouvoir parler. Soit si vous êtes plutôt coureur ou coureuse de fond, vous pouvez effectuer un travail dit de fractionné dans le langage de la course à pied, c'est très courant, c'est-à-dire que vous allez alterner la course rapide à la course lente, dite de récupération. Commencez donc par 20 secondes de course rapide, le plus rapidement possible, donc sur 20 secondes sans ralentir, et récupérez 40 secondes en marchant. Recommencez, faites ceci pendant environ 5 minutes. Puis passez à 25 secondes de course rapide et 35 secondes de récupération pendant 5 minutes également. Et enfin, passez à 30 secondes de course rapide et 30 secondes de récupération pendant 5 minutes. Ce qui vous donne une séance de 15 minutes de pur intermittent, sans bien sûr compter l'échauffement et les étirements. Les intermittents en 30 secondes d'effort à 30 secondes de récupération, c'est un des exercices les plus connus et les plus répandus. Vous pouvez aussi effectuer cet exercice sur tapis de course, en effectuant donc votre temps de récup sans courir, vous stoppez net. Et si en revanche vous êtes plus tourné vers le fitness et la musculation que la course à pied, vous pouvez tester le principe des circuits training. De la même façon, alternez 20 secondes d'effort avec un exercice de renforcement musculaire de votre choix. Exemple, flexion de jambes, abdominaux, fente alternée, pompe, gainage, corde à sauter, pourquoi pas. Et donc 40 secondes de récupération où vous ne faites rien. Puis augmentez le temps de travail et réduisez le temps de récup. Faites un premier circuit avec 8 exercices seulement et récupérez à la fin du premier tour environ 2 à 3 minutes. Choisissez ou non d'en refaire un deuxième, ou pourquoi pas même plus. Le but est de travailler votre cardio. Il faut donc trouver des exercices que vous allez pouvoir effectuer le plus rapidement possible et qui vont solliciter tout votre corps. Voilà, vous êtes prêt pour le travail en intermittent à haute intensité. Merci, au revoir, à bientôt.
Merci. Et tout de suite, une pause musicale au label d'Urban Trad.
Si vous saviez combien les jours me sont pesants et combien les heures passées allongées là sur le divan me feront bientôt perdre le nord loin du navire qui vous emmène à son bord. belle si nous étions nés plus tard et sous d'autres cieux. Si j'avais été garçon, aurions-nous dû nous dire adieu. Les gens n'ont écouté que la peur. Le chemin que nous suivons n'est pas le leur.
Pour notre dossier aujourd'hui dans À votre santé. Alors, le dossier du mois, j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Nathalie et Jean Renaud, géobiologues. Bonjour.
Bonjour Catherine.
Alors, Nathalie et Jean, vous venez du Lot. Vous êtes géobiologues. Alors, je vous laisse vous présenter.
Alors, tout d'abord, la géobiologie, eh bien, si l'on étudie en fait les syllabes de ce mot, on retrouve géo qui est donc la terre.
Oui.
Et puis bio, donc la vie, et logos, l'étude. Alors ce n'est pas l'étude de la vie sur terre, mais l'étude des phénomènes qui peuvent perturber la vie et notamment là, en l'occurrence, des habitants, puisque c'est ce qui nous préoccupe. Donc, les habitants des lieux, des maisons, des lieux de travail aussi.
Tous les lieux de vie.
Tous les lieux de vie, là où l'on passe énormément de temps.
Voilà. Donc, la géobiologie, c'est en quelque sorte la médecine de l'habitat, des lieux de vie. Est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, parce que le but de la géobiologie est justement d'améliorer les conditions de vie, mais souvent au niveau physique.
Alors, c'est à titre préventif, mais aussi à titre curatif. Hein, quand tout va bien, on peut faire appel à vous. Et quand ça va pas, évidemment, aussi.
C'est ça. Assez souvent, maintenant, ça commence un petit peu à rentrer dans les mœurs. Nous avons des personnes qui nous appellent avant d'acheter ou de concrétiser, disons, une vente de maison ou de terrain pour savoir s'il y a des phénomènes telluriques, notamment, perturbants, parce que ces phénomènes peuvent vraiment influer sur notre bonne santé. Et ensuite, nous avons, c'est la majorité des cas, beaucoup de personnes qui se rendent compte que leur vie n'est pas forcément, je parle toujours de l'état physique, hein, mais que leur vie n'est pas forcément ce qu'elle devrait être. Et puis, par connaissance ou par renseignement, se rendre compte qu'il y a peut-être des phénomènes aussi qui viennent interférer sur leur vie. Donc, dans ces cas-là, ils nous appellent pour que nous puissions y remédier.
Hein, c'est vrai que quand on entre dans un lieu, parfois, on s'y sent particulièrement bien, sans savoir exactement pourquoi. Il n'y a rien de particulier. C'est pas forcément joli, mais bon, ça peut l'être. C'est pas forcément bien décoré, mais bon, ça peut l'être. En revanche, quelquefois, on arrive sur un lieu et on se sent vraiment pas bien du tout. Hein, donc ça peut être tout de suite, mais ça peut être au bout de quelques heures, au bout de quelques semaines. Et donc là, ça peut être dû à des, et c'est souvent le cas, à des phénomènes, comme tu disais, telluriques. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait que dans un lieu, on se sent bien ou on se sent pas bien du tout, on peut même tomber malade?
Alors, ce que l'on ressent, bon là on va parler de ressenti, justement, oui. Hein, et tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que parfois on arrive, et ça je pense que c'est arrivé à tous les auditeurs qui nous écoutent, d'arriver, hop, et d'un seul coup, vraiment, on se sent vraiment très très mal ou très très bien.
Oui.
C'est tout simplement parce qu'à ce moment-là, on est ou en accord ou en désaccord avec l'énergie du lieu. Donc, un endroit où l'on se sent mal, c'est en général parce que on a son propre taux vibratoire, donc sa propre fréquence, hein, qui est plus élevée que le lieu, en l'occurrence. Après, quand on se sent bien dans un lieu, ça ne veut pas forcément dire aussi que le lieu est élevé énergétiquement. Ça veut simplement dire que nous sommes en résonance et en accord avec la fréquence qui s'y trouve. Et c'est un petit peu là où justement ça peut être intéressant et important de faire justement venir un géobiologue, parce que si l'on arrive par exemple dans une maison, on achète une maison, et puis au moment où l'on achète cette maison, on est très fatigué, éventuellement on est malade, ou alors on a plein de soucis, vibratoirement nous sommes bas. On arrive dans cette maison nous plaît. Il y a de fortes chances à ce moment-là pour que cette maison, elle aussi, est une résonance basse, sinon on ne serait pas en accord avec elle.
Tout à fait.
Donc ça veut dire que si cette maison a une résonance basse, une fréquence basse, ça veut dire qu'elle a, et pour répondre à ta question, des phénomènes telluriques peut-être présents qui vont aussi baisser cette fréquence. Et des phénomènes telluriques, donc qui viennent de la Terre, ça peut être couramment des courants d'eau souterrains, des failles telluriques, ça peut être, en général ça accompagne au moins une cheminée cosmotellurique de polarité négative. Ça peut être...
Est-ce que tu pourrais nous expliquer?
Oui, après, je vais réexpliquer après.
Un petit peu ce que sont tous ces phénomènes.
Voilà, donc plein de phénomènes comme ça qui vont baisser la fréquence de la maison et puis, je dirais, qui vont donc donner une ambiance lourde. Et cette ambiance lourde, cette fréquence basse, eh bien, va contribuer aussi à continuer à faire descendre la fréquence de la personne. Et puis, bon, c'est un cercle vicieux. Alors, succinctement, au niveau de la description des phénomènes, bon, un courant d'eau souterrain, bon, c'est facile à comprendre.
C'est une source.
Ça peut être une présence d'eau, en fait, hein, qui circule sous la maison, même à des mètres et des mètres de profondeur.
Et une nappe phréatique, des nappes d'eau, non ?
Une nappe phréatique, c'est différent, parce qu'une nappe phréatique, justement, ne va pas circuler et les conséquences de la nappe sont différentes.
Ce qui pose problème, c'est quand l'eau
circule.
Quand l'eau circule, qu'elle coule. Hein, parce qu'elle va amener l'énergie des personnes, elle va l'emmener avec elle. Donc, ça, c'est ça qui peut fatiguer énormément. Et en fatiguant, ça va baisser les défenses immunitaires de la personne. Donc, en fait, il n'y a pas un phénomène attribué à, par exemple, au courant d'eau ou à la faille, mais ça baisse le système immunitaire et donc les faiblesses de la personne vont ressortir à ce moment-là.
D'accord. Tandis que de l'eau qui stagne ne va pas véhiculer de l'énergie.
Ce sera beaucoup moins important. Ça peut fatiguer, mais de manière moindre.
Et en règle générale, c'est bon ou c'est pas bon d'avoir de l'eau en dessous de la maison, qu'elle soit stagnante ou qu'elle circule. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça
ou... Oui. L'eau. Alors l'eau, sur un terrain, c'est très bien si vous voulez construire un puits ou des choses comme ça. Par contre, sous une maison, c'est catastrophique.
D'accord.
Tout simplement. Hein. Enfin, pour nous, ça fait partie des phénomènes les plus comment dire.
Les plus embêtants.
Les plus embêtants, vraiment ceux qui perturbent le plus
la santé,
les habitants.
Les personnes.
Oui. En plus de cela, il y a une notion aussi de mémoire des murs.
Oui.
Et donc l'eau circulant entraîne. Et ça, donc Masaru Emoto l'avait très bien montré hein, dans ses photos, dans ses expériences.
La mémoire de l'eau. Oui.
La mémoire de l'eau. Donc l'eau va amener. Des mémoires aussi de terrains qui auront été traversés avant d'arriver dans cette maison.
Oui.
Et admettons que la maison soit proche d'un cimetière.
Oui.
Et que malheureusement, le sens de déplacement de l'eau amène l'eau qui passe sous le cimetière, s'il y en a, sous la maison. Et on se retrouve avec les mémoires du cimetière. C'est-à-dire, on n'est pas dans un film d'horreur, hein, mais tout simplement...
Oui.
Un cimetière, bon, il y a la mémoire des âmes, enfin des corps qui y sont, des personnes qui ont vécu, qui sont enterrées là, plus la souffrance
des familles,
la tristesse des familles, etc., éventuellement la colère. Donc tout ça va se retrouver dans l'eau et qui va ensuite circuler sous la maison.
Oui, au niveau
énergétique. Et les habitants vont récupérer cette énergie.
Et ça va impacter donc la vie des personnes qui habitent sur ce lieu.
C'était le cas, on avait fait un hôtel assez grand en Dordogne, sur Sarlat, et les personnes avaient beaucoup de problèmes financiers, des gros problèmes d'humidité, et vraiment ils étaient très 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 embêtés, donc on était intervenu en hiver, parce qu'il faisait 0 degré, donc c'était des conditions très difficiles, et on était intervenu, l'hôtel était fermé. Et en fait, on avait découvert des courants d'eau assez importants. Et juste à côté, il y avait un couvent qui attirait vraiment notre œil. On travaille beaucoup en symbolique, en énergétique, et forcément, avec beaucoup d'intuition, on ressent les choses. Hein. Et le couvent vraiment nous interpellait de manière assez négative, hélas. Et en fait, en questionnant, hein, on s'est aperçu qu'il y avait un charnier de bébé sous le couvent. Et que l'eau venait de là, c'était assez... bon. Heureusement, c'est rarement le cas, mais là, c'était vraiment très glauque. Et quand on est intervenu sur l'hôtel, on a fait toutes les chambres une par une. Il y en avait, je ne sais plus combien. Et en fait, après, il n'avait même plus les odeurs d'humidité dans l'hôtel. Donc, ce qui fait que quand on intervient énergétiquement sur un lieu, nous, on réharmonise de manière énergétique, et ben, ça intervient sur le plan physique. C'est-à-dire
physique,
que là, il n'y avait plus d'odeur d'humidité. Quand on intervient sur des croisements de réseau, on va y revenir, les personnes nous disent, mais je dors comme un bébé. Et les résultats sont vraiment immédiats. C'est toujours très impressionnant.
Hein, quand on fait appel à vous, justement, c'est pour des problèmes de sommeil, des problèmes. Qu'est-ce que
très souvent le sommeil. Alors juste une petite chose, qu'il n'y ait pas de malentendu. Au niveau du charnier de bébé, c'était la mémoire du charnier de bébé hein, que nous avions ressenti. Hein, on n'était pas ni à les creuser ni quoi que ce soit. Hein.
Oui, il y avait plus de.
Non. C'était vraiment la mémoire de ça, quoi.
C'était
mais qui était toujours présente.
Énergétique, bien.
Donc après, les personnes, effectivement, nous appellent très, très souvent parce qu'elles sont en manque de sommeil. Disons que c'est le symptôme, très souvent.
Le premier symptôme.
Voilà, c'est ça.
Les personnes dorment très mal.
Ouais. Bon, ceci dit, il faut quand même éliminer le problème physique. Il faut quand même aller voir le médecin pour voir s'il n'y a pas de problème de santé derrière, bien sûr. Hein.
Ah, mais quand toutes les causes a priori classiques, connues, voilà. physiques, physiologiques, ont été éliminées et qu'on ne trouve rien, bien souvent, voilà, on fait appel à vous.
C'est ça. Ou qui ont été éliminés, ou alors, c'est pareil, le manque de sommeil, c'est quand même, ça c'est physique, mais ça a toujours aussi une cause.
Bien
Donc
sûr.
La cause, cette cause-là peut aussi être, augmentée par les phénomènes que nous pouvons trouver dans les maisons.
Bien sûr,
renforcés. Ce ne sont pas les phénomènes telluriques dont on parlait, le courant d'eau ou faille tellurique, etc. Ce ne sont pas eux qui vont provoquer directement des déséquilibres chez les personnes, mais par contre, ils vont faciliter ces déséquilibres chez les personnes.
Donc, les problèmes de sommeil, effectivement, mes problèmes récurrents, vont nous pousser à faire appel à des géobiologues. Qu'est-ce qu'il y a comme autre phénomène qui pourrait nous faire nous poser la question, est-ce que c'est pas un problème au niveau de la maison, du terrain? Bon, je dors mal, d'accord, mais
On a des gens qui ont des grosses fatigues, des gens qui se sentent mal, qui se sentent pas bien chez eux, tout simplement.
Mal de vivre.
Ouais. Il y a beaucoup de mal-être.
Des déprimes.
Fatigue, déprime. Ouais. Alors après, nous, la particularité de notre méthode de travail, c'est pour ça qu'on appelle ça géobiologie et harmonisation de l'habitat, c'est qu'on travaille sur la symbolique. On va travailler sur la symbolique et donc, au niveau des personnes, ça peut remonter sur leur passé, sur leur vécu, et ça va pouvoir expliquer des choses sur leur vie. Je reprends l'exemple d'une maison qu'on a faite la semaine dernière, où il y avait une entité, bon ça on y reviendra aussi hein, pour expliquer.
Oui, parce que c'est important.
Voilà, une entité qui était une mémoire d'un vécu de la personne, très, très, très colérique, on ne pouvait pas rentrer dans la pièce, hein, c'était une entité de colère très forte. Et en fait, ça renvoyait à la souffrance de cette femme, à la souffrance du féminin, d'une femme qui n'avait pas été entendue depuis toute petite, qui tirait la sonnette d'alarme avec des attouchements sexuels, hein, pour dire le truc. Et personne ne voulait l'écouter, elle fabulait, et total, cette personne avait évidemment accumulé en elle une grosse colère qui s'était matérialisée sous la forme d'une entité très forte. Et tant que l'entité était là, elle entretenait la colère de cette femme. Et la personne avait beau faire un travail sur elle, l'entité à chaque fois l'a rattrapée. Donc il fallait vraiment faire un nettoyage en profondeur pour pouvoir l'alléger de ça. Bon, avec un travail en parallèle sur elle, hein, bien sûr. Mais on trouve beaucoup de choses comme ça en symbolique qui vont travailler sur le mal-être direct de la personne.
Hein, donc ce que tu appelles entité...
Alors l'entité,
dans
ce cas de figure-là, oui. Ce n'est pas une âme humaine. Donc l'âme humaine, c'est une personne décédée qui est toujours présente sur les lieux. Et l'entité, c'est une cristallisation de formes pensées. Hein, on connaît de plus en plus les formes pensées. Ce sont des cristallisations de colère, de peur, de tristesse, de choses qu'on a emmagasinées au fil des ans, des émotions. Et qui vont, à force de se cristalliser, si ça devient très fort, ça va se densifier, on peut dire comme ça, et ça va former une espèce d'entité, comment on peut dire un peu, des fois qui se présente à nous sous la forme d'animal, qui voilà, quand c'est en colère, ça peut se représenter sous la forme d'une panthère, quelque chose de très très concret et très évident pour nous. Et voilà.
Donc ça, ces entités, elles sont présentes sur les lieux. Hein, il y en a partout. Mmh. Hein.
Il y en a partout.
Les personnes qui arrivent dans un lieu peuvent aussi les amener, les déposer.
Oui, ça peut accompagner les personnes, évidemment, voilà, hein, donc, et se déposer chez elles.
Donc, vous allez travailler à nettoyer hein, ces entités, à les dissoudre, à les faire partir.
C'est ça, mais auparavant, nous on dit transmuter les entités, en fait. Avant de les transmuter, il y a un travail qui est important à faire, c'est de mettre en résonance la présence de cette entité avec les personnes. Donc savoir au départ s'il y a une personne qui est plus en relation, si l'on peut dire, avec cette entité. Et puis à partir de là, savoir pourquoi cette entité est là et à quel moment elle est venue. Ça va nous donner des indications, comme en parlait à l'instant Nathalie, des indications sur la cause possible, sur ce qui a provoqué l'apparition de cette entité. Et ça va nous permettre à ce moment-là de travailler aussi avec la personne, disons de commencer à travailler avec la personne pour réparer. Pour réparer une blessure éventuelle. Et,
donc travailler avec son histoire.
Voilà, tout à fait, on travaille avec son histoire. Et assez souvent aussi, on tombe sur des entités qui mettent en lumière le transgénérationnel de la personne.
Et oui, on n'arrive pas sur un lieu par hasard. On n'achète pas une maison, on ne va pas louer une maison par hasard.
C'est ça.
Telle maison nous plaît, c'est parce qu'elle est en résonance avec nous, notre histoire, nos émotions, ce que l'on a à travailler bien souvent.
Les entités sont déjà présentes dans la maison.
Et on est attiré
comme
par
ça
elle.
Des maisons de divorce, de personnes divorcées.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a souvent des énergies de colère et de conflit dans la relation de couple. Et ça va attirer une personne qui vient juste de divorcer et qui est encore en colère et ainsi de suite.
Mêmes blessures à tout guérir que la personne qui habitait le lieu précédemment.
Et c'est ça qui est intéressant hein, dans la géobiologie. Au-delà des phénomènes telluriques qui sont très présents, des phénomènes invisibles, on trouve cette relation, cette dimension
aussi.
Nous, on l'interprète en symbolique. Moi, j'ai une formation d'analyste, interprète de rêve, donc c'est la psychanalyse jungienne. Donc, on retrouve de la psychologie, on retrouve de la symbolique. C'est d'une richesse incroyable.
Oui, donc Nathalie Renaud, si tu peux te présenter, parce qu'on l'a pas fait.
Oui, c'est vrai qu'on a on est parti à fond dans ce
domaine. Mais oui, c'est vraiment passionnant.
Alors moi, depuis toute petite, je suis hypersensible. Au passage, un petit coucou aux hypersensibles, parce que c'est pas facile à gérer, qui a développé une intuition très forte chez moi. Donc, à l'âge adulte, j'ai cherché à comprendre d'où venaient toutes ces fortes intuitions, ces moments d'angoisse, d'être dérangée, de pas comprendre pourquoi. Bon, maintenant, grâce à la géobiologie, j'ai compris ce qui me dérangeait. Donc, du coup, à partir de l'âge adulte, j'ai étudié l'astrologie, la tarologie, la cabale, l'interprétation de rêves, le reiki. On fait également des accompagnements de personnes. Hein. Et puis la géobiologie m'a fait comprendre tous ces phénomènes qui m'envahissaient sans comprendre pourquoi. En résumé, voilà, pour pas prendre trop de temps.
Très bien. Donc juste après une première pause musicale, eh bien nous retrouverons Nathalie et Jean. Et Jean, tu nous parleras un petit peu de comment tu en es venu toi aussi à la géobiologie. Donc nous retrouvons Christophe Willem, l'été en hiver. À tout de suite.
Sais-tu qui est au bout du fil, qui appelle au milieu de la nuit? C'est ton ami des heures fragiles, pas l'amant juste, le confident. Je sais rien qu'au son de ta voix, tes yeux mouillés, ton âme en froid. Il fait la pluie, mais moi je suis là pour quoi sauter les saisons, venir l'été en hiver, voir ton cœur qui fond là sous le soleil. Tu m'as relevé quand tu tombes, mon cœur qui se soulève peut déployer toute une armée.
Donc, à votre santé, Catherine, aujourd'hui, le dossier du mois, la géobiologie, avec Jean et Nathalie Renaud. Donc, la géobiologie, hein, comment, Jean, toi, tu y es venu?
Alors, au tout départ, enfin, disons, lorsque j'étais plus jeune, bon, j'ai toujours été persuadé qu'il y avait d'autres choses qui existaient que ce que l'on voyait. Bon, après, bon, j'ai lu à l'époque, enfin, pendant toute mon adolescence, un peu plus, bon, pas mal de livres sur, enfin, là-dessus, donc sur ces thèmes. Et puis, après, en professionnel, j'étais électrochimiste, donc ce qui n'a rien à voir avec ça. Mais par contre, ce qui montre bien que l'on peut être cartésien et puis pratiquer un métier tel que le nôtre. Parce que souvent on nous dit « Oh, mais moi je suis cartésien, je crois pas à tout ça, ou alors je vais avoir du mal ». En fait, puisque nous organisons aussi des stages de formation sur la géobiologie, etc., et d'autres thèmes, au contraire, plus on va être cartésien, à condition de ne pas être obtus, hein, mais plus on est cartésien, et mieux notre travail sera fait, parce que justement on va vérifier ce qu'on trouve, histoire de pas non plus partir dans des sphères élevées.
Garder les pieds sur terre.
Voilà.
Oui, toujours.
Et puis un jour, donc, bon, il y a un peu plus d'une dizaine d'années de ça, on reçoit un jour un ami avec Nathalie, et puis il avait fait passer chez lui un géobiologue, puis il avait installé plein de petits menhirs partout. Bon, nous, on ne travaille pas comme ça, mais lui, il avait reçu plein de petits menhirs. Et là, c'était la révélation. Et on s'est dit, mais c'est ça qu'on veut faire, quoi.
C'est grâce à ça, malgré tout.
C'est ça.
Le déclenchement.
En fait, c'était la réponse de des questions que je me posais sans vraiment me les poser. Enfin, je me les étais posé, ouais, voilà, c'est ça, c'est bon sens, le bon ordre. Mais bon, j'y pensais pas tout le temps. Et puis à ce moment-là, toc, une petite étincelle, et puis
voilà. Ça a été une révélation, voilà. Ça t'a parlé et...
Et à partir de là, bien, on est parti dans les études avec différents formateurs. Et puis maintenant, nous continuons toujours à nous former parce que c'est important d'être, alors j'irai pas à la pointe, mais d'évoluer. Oui. En fait, hein, ça c'est important.
D'approfondir
ouais. nos connaissances, nos recherches. Et puis nous organisons aussi nous-mêmes des stages.
D'accord. Tout à l'heure, tu nous parlais de phénomènes, hein, de cheminées, en quelques mots. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire qu'est-ce que c'est?
Alors, très
une cheminée.
Une cheminée cosmotellurique, c'est un peu comme une colonne. Enfin, c'est vraiment très schématique, hein.
Oui.
C'est un peu comme une colonne qui va se placer dans des endroits particuliers. Justement, on parlait des cimetières. Donc, les cheminées cosmotelluriques de polarité négative, elles vont se situer dans les cimetières, sur les anciens lieux de bataille, ou dans les maisons qui ont une fréquence très basse.
Et quel impact ça a sur...
Et bien, ça continue à baisser le taux vibratoire. Ça continue, et en plus, elles vont se remplir, c'est vraiment le cas de le dire, d'entités non humaines et d'âmes humaines, qui vont, elles aussi, continuer à baisser le taux vibratoire. Je me souviens d'une maison que nous avions fait... Dans le Tarn-et-Garonne, et bon, c'était une histoire familiale très très lourde.
Très lourde, oui.
Et quand on est entré dans le salon salle à manger, c'était vraiment, enfin, c'était bon. Nous, on a quand même l'habitude de ça, puis on sait comment faire pour pas subir trop l'influence de ces phénomènes.
Pour vous protéger de ça, oui.
Voilà.
Oui, mais quand on ne sait pas, on peut pas se protéger.
Et voilà, et les personnes vivaient là-dedans, mais c'était, on avait une énorme cheminée dans la pièce, et c'était enfin à vivre au quotidien, c'était intenable, et c'est pour ça qu'elle nous avait appelé, parce qu'elle s'en sortait plus, quoi. Donc on a ça. Après, on a les failles telluriques, qui sont on peut dire comme des fissures, hein, donc dans le sol, et là pareil, ça baisse énormément le taux vibratoire. Voilà, bon, ça, ce sont pour les phénomènes rencontrés les plus fréquemment au niveau
théorique.
Et les croisements
de réseaux aussi.
Tout le monde a entendu parler du réseau Hartmann. Et
voilà.
C'est vrai que si on a la malchance, entre guillemets, puisque toujours pareil, rien n'est dû au hasard, d'installer son lit sur un croisement Hartmann, par exemple, de niveau 3 négatif, c'est pareil, on va retrouver le manque de sommeil, donc la fatigue, enfin, tout un tas de pathologies qui vont se...
Et oui, parce que je le rappelle, le sommeil, c'est le moment où on va se réparer, on a besoin d'énergie. Donc si on est dans un lieu où on perd de l'énergie, le travail de notre corps, de réparation, va avoir beaucoup de mal à se faire. Hein.
Exactement.
Donc là, oui, la géobiologie... Les personnes vont faire appel à vous. Est-ce que vous avez des petits exemples de cas que vous avez traité dernièrement, ou des choses particulières, ou...
Oui, tout à l'heure je parlais d'entités liées au transgénérationnel.
Oui.
Donc on avait fait une maison, et à un moment donné, nous tombons donc dans la bibliothèque, la salle de bibliothèque, et la femme du couple nous dit, ça c'est la pièce que je préfère, c'est là où j'y passe le plus de temps. Et nous, pour nous, c'était l'une des pièces les plus chargées. Et effectivement, il y avait une entité donc qui était au centre de la pièce.
Puis il y avait plein d'objets, c'était une famille qui voyageait beaucoup. Enfin, elle avec ses parents, il y avait plein d'objets de tous les pays, notamment des statues, des choses comme ça, qui souvent trimballent, chacun trimballe sa petite mémoire, donc ça alourdit énormément.
Et donc, on a rapidement identifié l'entité, donc au centre de la pièce, comme étant une entité de culpabilité, hein, qui était liée à la femme. Et la femme, en fait, se sentait coupable parce qu'elle avait été mariée, enfin, s'était mariée jeune, avec son mari, qu'elle aimait maintenant, mais qui à l'époque elle ne l'aimait pas. Donc c'était pour répondre au désir de sa famille. Donc elle se sentait coupable d'avoir accepté en fait ce mariage. Et aujourd'hui, elle avait envie de, on va dire, de plus vivre sa vie de femme. Alors pas de divorcer, pas de se séparer, mais de tout simplement de s'épanouir, quoi. Et là, du coup, elle se sentait coupable. Parce que elle ressentait ça un peu comme une trahison vis-à-vis de sa famille et vis-à-vis de son mari. Et ça, ce sentiment donc de trahison, ça, c'était amené en fait par sa propre famille qui disait une femme, ça doit rester au foyer, c'est au service de la famille, c'est au service du mari, etc.
Alors qu'elle voulait voyager, elle voulait faire plein de choses, et elle s'est retrouvée coincée dans une vie de couple, ça lui convenait pas du tout, même s'il y avait de l'amour.
Oui. Et tout ça, ça avait cristallisé cette entité. Donc, comme elle passait beaucoup de temps dans cette bibliothèque, on va dire qu'à chaque fois, elle se reprenait une petite dose.
Et en même temps, ça entretenait cet état-là qu'elle devait dépasser. C'était son travail aussi.
C'est ça. Mais pour ça, il fallait
pour être en bonne santé, pour s'épanouir, et ça a pu l'amener. Donc, ça l'a amenée à prendre conscience du travail qu'elle avait à faire pour elle. Et pour les autres, forcément.
Oui, tout à fait. Mais même si elle en avait pris conscience par elle-même et qu'elle avait travaillé à l'extérieur, en revenant chez elle, sans toucher, on va dire, à cette partie-là, de toute façon, elle serait à chaque fois retombée dans le bain et sous, toujours pareil, entre guillemets, sous l'influence de cette entité.
Oui, donc quand on fait un travail sur soi, quand on pense qu'on avance bien, mais que malgré tout ça traîne ou on s'en sort pas, on peut se poser la question effectivement, est-ce que la maison elle n'est pas porteuse de ce que j'ai à travailler
Oui, et puis bon, sans dramatiser, mais toutes les maisons ont une histoire. Tous les lieux ont une histoire. Rien n'apparaît comme ça, poum, du jour au lendemain. Donc ça veut dire qu'il y a, forcément un vécu, même un terrain.
Le terrain, il a un vécu. Parce que quand on fait construire une maison neuve, il y a quand même sur le terrain des...
Il s'est passé des choses, bon, pas forcément des batailles. On a eu le cas là tout récemment. On est intervenu sur une maison, enfin, deux maisons en fait, à peu près dans le même coin, dans le sud de Toulouse. Au sud de Toulouse. Et là, on était tombé donc sur un ancien lieu de bataille de la guerre de Cent Ans. Et les phénomènes ne s'étaient pas déclarés tout de suite, hein, parce que les personnes, je crois, y habitaient depuis longtemps.
Ouais.
Mais en fait, ça s'était monté comme ça au fil des années. Et alors là, bon, on tombe dans l'extrême. Hein. Heureusement, c'est rarement comme ça. Mais il y avait des déplacements d'objets, il y avait des portes qui s'ouvraient, qui se fermaient, les enfants.
On peut assister à ce genre de phénomène. Alors, aussi.
Personne voit passer des ombres ou même carrément des personnages, hein.
Voilà, c'est
ça. En physique, hein. Beaucoup d'enfants d'ailleurs.
Beaucoup d'enfants, ouais. Là, ils avaient des adolescents, et ils voyaient des déplacements où notamment la fille entendait aussi la nuit, des déplacements de comme de chevaliers dans les couloirs.
Et oui, c'est pas que dans les films, hein.
Ah non, ça. Et ça faisait, depuis un an, c'était vraiment le paroxysme. Et ils dormaient plus, ils étaient vraiment, vraiment à bout, quoi. Et la veille qu'on rencontre ces personnes-là, la fille nous a raconté que toute la nuit, elle avait vu et ressenti, en fait, des chevaliers se battre dans sa chambre. Mais avec, donc, les bruits, les hennissements de chevaux, les cris, etc., quoi. Donc. Dans un premier temps, on commence à se dire, bon là, je suis pas très bien, il va peut-être falloir que je me fasse soigner, quelque chose. Mais quand ça persiste et que d'autres personnes voient les mêmes phénomènes et puis qu'on se rend compte que le verre qu'on avait posé là, on le retrouve dans la seconde qui suit, dans une autre pièce, etc.
On commence un peu à se poser les questions, plusieurs fois.
Voilà. Bon, ça c'est le cas extrême, hein, quand même.
Oui, ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive quand même, parce que les gens n'osent pas en parler, hein, mais ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Nathalie, Jean, malheureusement, c'est déjà la fin. On en parlerait pendant des heures. Bon, je crois que vous allez revenir si vous voulez bien nous parler encore et encore de toutes ces choses. Merci beaucoup. Donc, vous pourrez retrouver les coordonnées de Nathalie et Jean Renaud, géobiologues à Escan, dans le Lot, sur le site, hein, en podcast. Voilà, au revoir et encore merci beaucoup pour votre intervention.
Merci Catherine.
Merci beaucoup aussi.
Au revoir.
À bientôt.
Bonjour Marine.
Bonjour Catherine, bonjour à tous. En ce temps-là, il y avait un roi qui avait deux jeunes enfants, appelés Moine et Uther Pendragon. Lorsque le roi mourut, son sénéchal fit mettre à mort le petit moine et se fit couronner roi à sa place. Et comme il n'avait pas pu s'emparer du plus jeune fils du roi, il avait grand-peur que l'enfant ne revînt un jour le détrôner. Aussi résolut-il de faire bâtir une tour si haute qu'elle ne put jamais être prise. Alors on se mit à l'œuvre. Mais à peine la tour commençait-elle à s'élever au-dessus du sol qu'elle s'écroula. Le nouveau roi manda ses maîtres maçons et leur recommanda d'employer la meilleure chaux et le meilleur ciment qu'ils pourraient trouver. Mais une seconde fois, la tour tomba. Puis une troisième et une quatrième. Si bien que tout le monde était ébahi et le roi vraiment très irrité. Il appela tous les plus sages et leur proposa le cas. Après en avoir délibéré durant 11 jours, ils prétendirent que la tour ne tiendrait jamais si l'on ne mélangeait pas au mortier le sang d'un enfant né sans père. Alors aussitôt le roi envoya 12 messagers de par le monde qu'il chargea de ramener cet enfant. Un jour, deux d'entre eux passèrent à l'entrée d'une ville où jouait une foule de jeunes garçons. Parmi ceux-ci était le petit Merlin qui, sachant toutes choses, connut bien ce que venaient chercher les messagers. Alors dès qu'il les vit, il s'approcha du fils de l'un des plus riches hommes de la ville. Il le frappa rudement à la jambe. Alors l'enfant se mit à pleurer et à injurier Merlin, en l'appelant « Né sans père, né sans père !» Aussitôt les messagers s'approchèrent pour l'interroger. Merlin vint à eux en riant et leur dit « Je suis celui que vous recherchez et dont vous devez rapporter le sang au roi. Si vous me jurez que vous ne me ferez aucun mal, j'irai avec vous et je vous dirai pourquoi la tour ne tient pas. » Ils chevauchèrent ensemble jusqu'à la cour du roi. « Mon roi, tu veux savoir pourquoi la tour ne peut pas tenir ? Eh bien, c'est qu'il y a sous la terre un endroit où elle s'appuie sur deux dragons, l'un rouge et l'autre blanc, qui dorment sous deux grandes pierres. Quand ils sentent le poids de la tour, ils se tournent et elle s'écroule. Aussitôt, le roi fit rassembler les ouvriers du pays pour creuser la terre, lesquels travaillèrent si bien qu'on mit à jour deux grandes pierres. Et dès qu'on en eut soulevé la première, un dragon blanc apparut, si fier que tout le monde se hâta de reculer. Puis sous la seconde, on découvrit un dragon rouge, qui sembla cette fois encore plus grand. Et tous deux ne tardèrent pas à s'éveiller et à se jeter l'un contre l'autre, se déchirant horriblement des dents et des griffes. La bataille dura tout le jour et toute la nuit. Longtemps le blanc eut le dessous, mais à la fin, il lui sortit une flamme de la bouche et des narines qui consuma le rouge. Après quoi le vainqueur se coucha et mourut à son tour. Alors Merlin dit au roi que maintenant, il pouvait faire bâtir sa tour. Mais le roi lui demanda « Il faut que tu nous apprennes ce que signifie la lutte de ces deux dragons. »« Eh bien, je te dirai que le dragon rouge te représente. Et le blanc, c'est le fils du roi que tu as remplacé et auquel tu as volé son héritage. Et si les deux dragons luttèrent longtemps, c'est que tu tiens depuis longtemps le royaume que tu as pris. Et si le blanc a brûlé le rouge, c'est qu'Uther Pendragon, le fils du roi, te fera brûler toi-même. Dans 3 jours, il débarque au port de Winchester. » Ainsi, Uther Pendragon reprit le trône qui lui revenait de droit.
Merci Marine, à très bientôt. Aujourd'hui, une pierre sur le chemin, Clément va nous parler de la tourmaline. Bonjour Clément.
Bonjour, oui, la tourmaline noire ou shawl. Donc la tourmaline doit son nom à un vieux mot cingalais du Sri Lanka, tournamal, signifiant pierre de couleur mélangée, car c'est une pierre qui peut revêtir chaque couleur de l'arc-en-ciel. Sur le plan physique, la tourmaline dynamise le système rénal et aide à l'élimination des métaux lourds par l'organisme. Elle favorise la guérison des maladies de la peau et permet de soulager l'arthrite et les douleurs en général. La principale vertu de la tourmaline noire est son pouvoir protecteur contre les énergies négatives de notre entourage grâce à son fort ancrage tellurique. Cette pierre influe sur les champs magnétiques, on l'utilise pour diminuer les effets négatifs des ondes électromagnétiques, on l'utilise en géobiologie pour protéger et purifier les lieux de vie des perturbations électromagnétiques, TV, ordinateurs, portables, etc. Des points géopathogènes, des croisements de flux souterrains. On placera un morceau de tourmaline à proximité des écrans, ordinateurs, compteurs électriques ou aux quatre coins de la maison. Il faudra bien penser à la purifier régulièrement en la plaçant dans de l'eau courante.
Très bien. Donc on peut avoir des tourmalines de quelle taille pour que ce soit efficace?
Pour un compteur électrique, plutôt de la taille du poing.
Oui.
Après, pour un écran,
ouais. Comme une ancienne pièce de 5 francs.
Ouais, une
par
ancienne
exemple,
pièce de 5 francs, voilà, c'est pas mal. Après, ce qui est important surtout, c'est voilà, suivant la taille, plus elle sera petite, plus il faudra la purifier régulièrement.
Oui, on peut la porter sur soi.
On peut également la porter sur
soi. La mettre sous son oreiller.
Sous son oreiller aussi. Mais
dans sa culotte. Non, je rigole.
Le seul truc avec voilà le fait de la placer dans la poche, en fait, c'est qu'elle vu qu'elle a un fort ancrage, en fait, elle peut nous bloquer et nous ancrer, en fait, voilà.
Mais quand on n'est pas trop bien enraciné, ça peut aider aussi.
Ça peut aider aussi, voilà.
D'accord, mais c'est à nous de sentir aussi comment, quels effets à la pierre, si on la garde, si on n'a pas envie de la garder, si ça nous gêne, bien on la garde pas, voilà.
Oui,
on
voilà,
va l'éloigner
vraiment,
un peu, la reprendre un petit peu plus tard. Voilà, faut toujours se fier à son ressenti.
À son ressenti,
avec
oui,
les,
ça c'est
les pierres.
Avec les pierres, c'est vraiment ce qui est important. Après, voilà, la tourmaline, c'est vraiment une pierre de protection. Donc, voilà. Après, il n'est pas toujours nécessaire de se protéger.
Oui.
Ça peut bloquer certaines opportunités, par exemple également.
On en parlait tout à fait tout à l'heure avec Jean et Nathalie, géobiologues.
Voilà,
et oui.
Des fois, c'est justement dans les difficultés qu'on arrive à grandir. Donc,
tout à fait.
Le fait d'être protégé ne peut nous empêcher de grandir.
Voilà, et de faire le travail qu'on a à faire aussi.
Merci.
Merci Clément.
Avec grand plaisir.
Catherine, dans la rubrique trucs et astuces de notre émission À votre santé, pourquoi les femmes perdent-elles de plus en plus leurs cheveux? Mais oui, tout comme les hommes. Eh bien, on a remarqué souvent que à cause des colorations, des produits industriels, de la pollution, nos cheveux étaient de plus en plus affectés. Donc un petit truc pour bien prendre soin de ses cheveux, nous pouvons faire des cataplasmes d'argile pour nettoyer tout ce qui va être emmagasiné par nos cheveux. Donc voilà, des masques d'argile, et on peut aussi renforcer notre organisme avec l'alimentation, en prenant des graines germées, de la spiruline, et en nettoyant, faisant des cures de détox. Voilà, à votre santé, c'est terminé pour ce mois-ci. Nous nous retrouverons le mois prochain, troisième samedi du mois à 10h, avec une rediffusion le dimanche à 11h. Juste une petite info, le collège de naturopathie Midi-Pyrénées propose un module de technique manuelle, massage californien, massage Chantala les 4 et 5 mars. C'est une formation ouverte à tous. Prenez bien soin de vous, restez à l'écoute de CFM, mais surtout restez à l'écoute de vous-même. À très bientôt. Ciao, ciao.